Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La théologie du Christ jusqu'à Nestorius. On se souvient qu'à partir de l'an 360, la remise en question de la divinité du Saint-Esprit avait pris le relais de la remise en question de la divinité du Fils. Et on se souvient aussi que le Concile de Constantinople, reconnu œcuménique après coup, avait mis un point final à ces remises en question et avait complété le symbole de Nicée pour aboutir au credo que nous récitons encore aujourd'hui. La crise arienne était donc terminée, les Ariens étaient hors la loi dans tout l'Empire, la foi trinitaire avait triomphé. Mais désormais, les débats théologiques vont quitter le terrain trinitaire pour se déplacer sur un terrain nouveau, celui de la foi au Christ, ce qu'on appelle en théologie la christologie. Comme l'a dit un historien des conciles, cet enchaînement n'est pas accidentel. En effet, de même qu'auparavant, il fallait tenir à la fois la distinction entre le Père et le Fils et leur égalité dans l'unique nature divine, de même, maintenant, il faut tenir l'unité du Christ en ses deux natures, divine et humaine, affirmer qu'il est à la fois Fils de Dieu et Fils de Marie, et pourtant qu'il n'y a qu'un seul Fils, confesser qu'il est un et qu'il est vrai Dieu et vrai homme. C'est toute une série de paradoxes vertigineux, et nous avons déjà souligné que la foi chrétienne est faite de paradoxes, c'est-à-dire d'affirmations toutes vraies mais difficiles à concilier, et qu'il ne faut jamais céder à la tentation de choisir une affirmation au détriment de l'autre. Il faut toujours chercher à les tenir ensemble. Au siècle de Nicée, un grand adversaire d'Arius, dont nous n'avons pas encore parlé, s'appelait Apollinaire. Il a vécu de 310 à 390. Il était évêque de Laodicée, aujourd'hui c'est Latakié en Syrie. Apollinaire était un ami de saint Athanase et de saint Basile. Il partageait avec saint Athanase une insistance très forte sur l'union dans le Christ du Verbe de Dieu et d'un corps humain. C'est ce qu'on a appelé le schéma Verbe-chair, qui a tendance à sous-estimer l'importance de l'âme humaine du Christ. En effet, les partisans de ce schéma Verbe-chair sont portés à penser que c'est le Verbe de Dieu qui pense et qui prend des décisions directement dans la vie terrestre du Christ, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait une âme humaine, ou du moins que cette âme joue un rôle particulier. Alors pour mieux comprendre, prenons le contre-exemple du grand Origène, deux siècles plus tôt. On a pu dire d'Origène qu'il était avant tout le théologien de l'âme du Christ. Cette âme, en effet, c'est le pivot de sa pensée sur le Christ. Origène ne raisonne pas à partir d'une définition de l'être humain, comme s'il disait « voilà, tout être humain est âme et corps », et puisque le Verbe se fait homme, il a bien sûr pris une âme et un corps. Il raisonne d'une toute autre manière, déconcertante pour nous, à partir de la transcendance du Verbe et de sa conception de l'âme. Origène accorde à l'âme humaine une immense importance. On pourrait presque dire une importance disproportionnée, car il pense que les âmes ont existé avant les corps et qu'elles sont ensuite seulement venues dans les corps. Mais nous pouvons laisser cet aspect un peu aberrant de côté, car il lui vient d'hypothèses philosophiques et non pas de sa foi chrétienne. L'important, c'est que pour lui, notre âme, c'est ce qui fait le lien entre notre humanité et Dieu. Elle est donc ce qui nous permet d'avoir une vraie liberté, de prendre de vraies décisions, de nous engager dans ce que nous promettons, etc. C'est ce qui nous différencie des autres êtres vivants. Par notre corps, nous ressemblons beaucoup aux animaux. Nous sommes des mammifères comme les autres, mais par notre âme, nous sommes très différents et nous communiquons avec Dieu. Et l'âme, bien sûr, est immortelle. Si notre âme a une telle noblesse, combien plus encore l'âme du Christ ? Origène la contemple, cette âme humaine, dans son union totale avec le Verbe de Dieu, pour lequel, dit-il, elle est enflammée d'amour. Si bien que cette âme ne peut absolument pas penser ou vouloir quelque chose de mauvais, elle ne peut absolument pas pécher, elle est totalement, absolument sainte. Et si le Christ est un et indivisible, bien qu'il soit à la fois Dieu et homme, C'est justement à cause de l'union parfaite de son âme humaine avec Dieu. Dès lors, comme le corps du Christ est bien le corps de cette âme-là, et non pas d'une autre, le corps du Christ est totalement divinisé au contact de son âme. Nous affirmons, écrit Origène, que son corps mortel et l'âme humaine qui l'habite, participant à sa divinité, ont été transformés en Dieu. Pour illustrer cela, Origène utilise la comparaison d'une masse de fer rougie au feu et tout entière devenue feu. Et il donne au Christ le titre de Dieu-homme, Théanthropos. Et c'est la première fois que cette expression apparaît dans l'histoire de la théologie. Comme on le voit, ce qu'Origène essaie d'exprimer, ce n'est pas que le Christ est Dieu, on le savait déjà, mais comment tout en lui est divin ou divinisé, alors qu'il est aussi parfaitement homme. Sans disposer encore d'un vocabulaire théologique adéquat, il essaie ainsi de rendre compte de ce qu'on appellera plus tard l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union dans le Christ de la nature divine et de la nature humaine, dans l'unité de sa personne. Mais nous reviendrons bien sûr là-dessus. Alors, pourquoi et comment passe-t-on d'Origène, chez qui l'âme humaine du Christ est centrale, à Apollinaire, qui prétend que le Christ n'a pas d'âme humaine? C'est que là où Origène pense en termes de complémentarité, Apollinaire pense en termes d'opposition. Pour lui, comme pour beaucoup d'inventeurs d'hérésie, deux éléments complets s'opposent. La divinité dans le Christ ne peut pas cohabiter avec une humanité complète. Et il faut en quelque sorte lui faire de la place pour qu'elle ne se sente pas à l'étroit. Si un homme s'était uni à Dieu, écrit Apollinaire, il serait deux. Si le Verbe de Dieu était uni à une âme humaine, ils se feraient concurrence et ne s'entendraient pas entre eux. Pour Apollinaire, donc, Dieu ne peut s'unir à l'humanité que par soustraction, en l'amputant d'une part d'elle-même. On voit à quel point on est loin d'Origène. Il est clair que cette pensée suppose une certaine idée de Dieu et une certaine idée de l'homme. Ils sont vus comme concurrents, et il faut donc qu'un des deux se fasse raccourcir, si je puis ainsi m'exprimer. C'est très important car ce sera sous-jacent à toutes les hérésies sur le Christ. Tantôt on l'amputera d'une part de ce qui est divin en lui, tantôt, comme Apollinaire, on l'amputera d'une part de ce qui est humain. Pour les Ariens, le Christ n'était pas vraiment Dieu, mais seulement semblable à Dieu. Pour Apollinaire, étant dépourvu d'âme, il n'est pas vraiment homme, mais seulement semblable à l'homme. Et c'est ainsi qu'Apollinaire croit sauvegarder l'unité du Christ. Les pères cappadociens dont nous avons parlé l'année dernière, saint Basile, saint Grégoire de Nice, saint Grégoire de Nazianze, sont aussi préoccupés qu'Apollinaire de l'unité du Christ. Mais comme Origène, c'est dans son âme qu'il voit le principe de l'unité de l'humain et du divin en lui. Il parle même d'un mélange des deux natures, tellement il considère que l'une et l'autre sont indissociables. Comme Origène, enfin, Grégoire de Nazianze considère que l'humanité du Christ est totalement divinisée. Saint Augustin, en Occident, voit les choses de manière assez semblable, en insistant sur le fait que le Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, et que pour cela, eh bien, il faut qu'il soit pleinement l'un et l'autre, Dieu et homme. Un intermédiaire n'est ni l'un ni l'autre, mais un médiateur doit tenir de chacune des deux parties entre lesquelles il exerce sa médiation. Dans un grand texte de la Cité de Dieu, Augustin affirme même que l'union de l'âme et du corps est beaucoup plus paradoxale que l'union de Dieu et de l'homme. Car dans le premier cas, l'union de l'âme et du corps, chez nous, il s'agit de l'union du spirituel et du corporel, qui sont vraiment tout à fait différents. Tandis que dans le second cas, le cas du Christ, il y a union d'esprit à esprit, et cette union est donc plus facile à comprendre. Je cite saint Augustin, « Qu'y a-t-il d'incroyable de nous entendre affirmer que Dieu a pris une âme et un corps d'homme ? Qu'y a-t-il donc d'incroyable que l'une de ces âmes, d'une manière ineffable et exceptionnelle, ait été prise par Dieu pour le salut de beaucoup ? Le corps est uni à l'âme pour constituer l'homme total et complet. Nous le savons par le témoignage de notre nature. Si ce n'était pas un fait d'expérience courante, ce serait sans aucun doute un fait assez difficile à croire. Car il est plus facile d'ajouter foi à l'union même de l'humain avec le divin, du changeant avec l'immuable, d'un esprit avec un esprit qu'à l'union d'un corps avec un incorporel. C'est donc l'anthropologie, c'est-à-dire la réflexion sur la nature humaine et ce qu'elle nous apprend de la structure de l'homme, qui est le point de départ de la solution du problème de l'unité du Christ. C'est dans ce contexte qu'apparaît Nestorius, qui est patriarche de Constantinople de 428 à 431. Nestorius brûle de prouver ses compétences en remédiant aux déficiences de ses prédécesseurs. Peu après son arrivée à Constantinople, il entreprend de déraciner chez ses fidèles les restes de la pensée d'Apollinaire et de la pensée d'Arius. Il part donc en guerre contre ceux qui, dit-il, mélangent les natures dans le Christ. Et c'est dans ce but qu'il va refuser que soit donné à Marie le titre de Théotokos, mère de Dieu, un titre pourtant très ancien, pour lui préférer celui d'Anthropotokos, mère de l'homme, l'homme Jésus, ou de Christotokos, mère du Christ. Et la raison de ce refus se synthétise de la manière suivante. Dieu ne peut pas avoir de mère, une créature ne peut pas engendrer la divinité. Cette formule est révélatrice de la confusion où est Nestorius entre des termes abstraits, humanité, divinité, qui désignent les natures, et la spécificité de chacune d'elles, et des termes concrets comme « homme » et « verbe » qui désignent un sujet subsistant. Et c'est pourquoi Nestorius est indéfendable lorsqu'on en vient aux conséquences qu'il tire de la distinction des natures dans le Christ, car il refuse de rapporter à la personne du Verbe de Dieu ce que fait ou ce que subit l'homme Jésus. Pour lui, on n'a pas le droit de dire, comme le font les théologiens d'Alexandrie, que Dieu est né ou que Dieu est mort dans le Christ, car ce serait faire offense à la divinité. Dieu incarné, écrit-il, n'est pas mort, mais il a ressuscité celui en qui il s'était incarné. Et s'il a souffert, c'est seulement au sens où un roi souffre quand on outrage sa statue. La statue pour Dieu, c'est la nature humaine de Jésus. Et on voit que Nestorius se rapproche de ce qu'on appelle l'adoptionnisme lorsqu'il parle de l'homme Jésus. Jésus est un homme déjà complet que Dieu a adopté pour se l'associer, pour se l'unir. Ainsi, quoi qu'on fasse, la divinité et l'humanité dans le Christ restent juxtaposées comme deux êtres subsistants. Mis en demeure de s'expliquer sur l'unité du Christ, Nestorius utilisera, de manière significative, la comparaison avec l'habitation de Dieu dans les saints. Il dit de la même façon que Dieu habite dans la vie d'une personne sainte, eh bien Dieu habite dans l'homme Jésus. Entre ces deux formes de divinisation, il n'y a qu'une différence de degré. Nestorius rejette catégoriquement l'idée d'union entre la divinité et l'humanité. Il ne veut parler que de conjonction, un mot qui signifie réunion, rapprochement. On rapproche deux réalités hétérogènes. Il manque à Nestorius de toute évidence, comme d'ailleurs à son adversaire, une conception précise de la personne. Cela étant, Nestorius a rendu un grand service à la théologie en cherchant à découvrir où était le principe de l'unité du Verbe incarné, Jésus, au-delà de la nature, et en orientant la réflexion des théologiens vers l'idée de personne, une idée qui sera mise définitivement au point au Concile de Chalcédoine en 451, mais nous parlerons d'abord la prochaine fois du Concile d'Éphèse en 431.